Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado diffusion à l'écoute des investisseurs pour le 30 avril 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Qu'est-ce qui a retenu notre attention sur le marché depuis la semaine passée et depuis le dernier mois?
Bien, depuis le dernier mois, c'est la dernière journée du mois aujourd'hui, donc les rendements là, n'incluent pas la performance qui aura lieu aujourd'hui, mais on devrait avoir un premier mois négatif depuis les 6 derniers. En avril, le TSX actuellement est en baisse d'environ 0,7%, le S&P 500 est en baisse de 2,7%, le Nasdaq en baisse de 2,5%. Les marchés américains ont quand même connu une semaine positive la semaine dernière, là, donc on a réduit l'ampleur de la baisse pour le mois d'avril, mais quand même, là, on est en territoire négatif. Du côté du Canada, ben, c'est une semaine un petit peu plus tranquille, il ne s'est rien passé. Depuis le début de l'année, on a quand même des rendements positifs sur le TSX, environ 5%, le S&P 500, 7,2%, le Nasdaq un petit peu moins à 6,4%. Toujours le combat des taux d'intérêt qui ont continué d'augmenter un petit peu cette semaine, pas beaucoup, mais quand même. On demeure en territoire avec des taux d'intérêt plus élevés aujourd'hui qu'ils l'étaient en début d'année. Donc, l'indice d'obligation universelle au Canada qui est en baisse de 3%. Juste pour le plaisir, je suis aussi allé voir à quoi ressemblait l'indice des obligations corporatives qui est en baisse moins de 1% de baisse versus 3% pour l'indice des obligations universelles. La durée est plus courte dans les obligations corporatives, l'échéance est plus courte, ça a moins d'impact quand les taux montent. Donc, ça l'a quand même bien fait relativement au reste des obligations. Ce soir, on a les résultats d'Amazon. Donc, toujours une entreprise là, qui est bien suivie par le marché. Jeudi, on a Apple. On a la Réserve fédérale qui va annoncer les taux d'intérêt mercredi. Et on a le chiffre d'emploi vendredi. Donc, cette semaine, il y a du stock. La semaine passée, on a eu de très bons résultats de Google et de Microsoft qui faisaient un peu le contraste à Meta qui avait eu des très bons résultats, mais mettons des prévisions à venir un petit peu moins reluisantes. Premier mois négatif sur 6, faut quand même, ça fait partie d'un marché normal. On ne peut pas espérer là, d'avoir des rendements positifs à tous les mois indéfiniment. Un marché sain et normal, c'est un marché qui corrige de 3, 4, 5% à l'occasion, puis généralement plus qu'une fois dans l'année. Donc, pour l'instant, tout va bien.
Merci beaucoup, Martin. Comme tu as mentionné, c'est la saison des résultats pour le premier trimestre qui se termine le 31 mars 2024. Le mois d'avril a été un mois difficile, comme tu as dit, pour le marché obligataire et le marché des actions. Et nous sommes en période de tension géopolitique élevée. Hein? Et en parlant de politique, nous sommes aussi dans une année d'élections aux États-Unis. Ouais. Donc, beaucoup de choses qui se passent. Et nous avons pensé que c'était un bon moment d'inviter notre collègue et ami Jean-René Ouellette, analyste senior et gestionnaire de portefeuille, pour nous parler de ces sujets. Jean-René, tu es toujours de nature positif et rassurant et tu nous apportes aussi beaucoup de perspectives. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Sarah, bonjour Martin, bonjour à vous.
On a vu l'impact de la saison des résultats sur les actions de Meta, Martin en a parlé. De façon générale, comment la saison des résultats se déroule-t-il?
Dans l'ensemble, il faut dire que c'est quand même une bonne saison. Je pense qu'il faut prendre, il faut faire attention. Il y a des facteurs, des fois, qui sont vraiment spécifiques à des firmes. Vous mentionniez Meta. Meta a annoncé des chiffres mauvais. La croissance est au rendez-vous, la profitabilité est au rendez-vous. Ce qui a déçu les marchés, c'est l'ampleur des investissements que Meta annonce qu'elle va faire. Donc, moi, si je prends un peu de recul, j'aime ça voir qu'une entreprise investit, parce que quand une entreprise investit, c'est qu'elle a confiance sur ce qu'il s'en vient, puis ça a des ramifications économiques pour la suite des choses. Puis on a vu un peu le même son de cloche, avec le moins d'impact sur la rentabilité à futur, mais avec des grands investissements annoncés et chez Microsoft et chez Google là aussi. Puis dans l'ensemble, sur la saison des résultats, on doit tourner aux environs aujourd'hui de 55-60% de la capitalisation boursière de S&P 500 qui a présenté ses résultats. C'est plus de 80% des compagnies qui ont excédé les attentes. OK, on prend un recul, un grand respire. Les attentes avaient été révisées quelque peu à la baisse juste à l'aube du trimestre, puis on bat des chiffres qui ont été révisés, donc c'est un peu plus facile. Néanmoins, on va tourner presque à 9-10% de croissance des bénéfices année sur année, alors qu'on en prévoyait 3-4. Et puis cette année, on voit que les prévisions pour l'ensemble de l'année tournent avec des prévisions qui tournent autour de 10-12% de croissance des bénéfices attendus pour l'année 2024. 10-12% de croissance des bénéfices, c'est pas mal. Évidemment, c'est pas uniforme, cependant. Il y a des créneaux où on sent que c'est plus fort, mais d'un autre côté, je regardais, tu sais, j'ai mes bons baromètres économiques, vous le savez, j'aime beaucoup les compagnies de transport, particulièrement les compagnies ferroviaires, parce qu'ils ont une grande diversité d'opérations. Puis, même celles qui ont fait mieux qu'attendu au premier trimestre ont quand même refusé de rehausser leurs attentes pour le reste de l'année. Fait qu'ils se gardent une petite gêne. Fait qu'est-ce que c'est rose bonbon? Est-ce que ça va bien partout? Peut-être pas, mais il y a quand même des créneaux où on va continuer de voir des investissements. Puis, vous mentionnez un peu plus tôt les résultats d'Amazon attendus ce soir. On va voir des investissements là aussi dans leur division de cloud, assurément. Mais je regardais l'impact que ça a sur le réseau électrique. On le disait en préambule, vous et moi, on voit qu'on a vu que pour la première fois, le Canada a importé plus d'électricité qu'on en a exporté. On voit les prévisions de tous ces centres de données-là vont demander énormément d'énergie. Pourtant, on n'a pas beaucoup augmenté nos capacités de production d'électricité, d'hydroélectricité et autres en Amérique du Nord, donc il va y avoir des défis. C'est là où des sociétés, des fois, dans un environnement économique qui peut être difficile, des sociétés comme des Eaton Corp, des Atkar aux États-Unis, ou même Stella Jones, que vous travaillez en portefeuille, vont venir bénéficier d'un certain vent d'eau qui, indépendamment de ce que l'économie fera, vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, puis à générer une croissance potentiellement plus forte que ce que l'économie donnera. Fait que je pense que si on se dirige vers un marché où on devra peut-être être un peu plus sélectif dans ce qu'on touche, même s'il y a des défis globaux dans l'économie, il y a quand même des vecteurs dans lesquels on devrait avoir des performances un peu plus robustes. Fait que ça, je pense que ça va être intéressant pour les prochains trimestres à observer.
Puis tu dis que tu sais il y a des défis au niveau mondial économique, mais qu'est-ce que tu prévois plus spécifiquement pour l'économie américaine et canadienne?
On est vraiment, je vais appeler ça deux mondes différents. On sent que l'économie américaine, elle est clairement plus résiliente que l'économie canadienne. Puis c'est pas juste par vertu, là. Ils ont eu leurs défis plus importants en 2008-2009. Ça a fait plus mal. Il y a 10 millions d'Américains qui ont perdu leur maison. Ils ont été forcés de se désendetter. Ils ont refusé de se réendetter quand ça a commencé à aller mieux par la suite. Ils ont aussi, dans bien des cas, des hypothèques fixes sur très, très longtemps. Donc, les taux d'intérêt augmentent, ça les touche moins. Il y a énormément d'investissements de la part des gouvernements, du gouvernement américain et dans les États aussi. Donc, on sent qu'il y a une robustesse à l'économie américaine qu'on ne sent pas du côté canadien. Puis on le savait au Canada, il fallait l'attendre. Hein? On a eu une période de 5, 10, 15, 20 ans qui a été drôlement prolifique. On s'est retrouvé en bout de ligne avec des valorisations immobilières assez élevées, avec un endettement des ménages hyper élevé, une structure obligataire qui fait en sorte que nos ménages canadiens sont clairement plus sensibles au changement de taux d'intérêt. Mais je vous dirais, en même temps que je dis ça, on voit clairement que l'économie canadienne ralentit elle aussi, ce qui a fait en sorte que l'inflation au Canada, elle est de retour à l'intérieur des zones souhaitées. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a même des inquiétudes à savoir que l'inflation pourrait réaccélérer. Si l'inflation réaccélère, les baisses de taux aux États-Unis, il va falloir attendre encore un peu. Au Canada, la porte, elle est grande ouverte parce que la Banque du Canada puisse commencer à baisser son taux directeur, probablement autour de juin. Mais en même temps, quand on regarde ça, si la Réserve fédérale américaine ne fait rien avant un bon moment, ça va aussi venir limiter ce que la Banque du Canada peut faire isolément, parce que plus la Banque du Canada baisse son taux directeur toute seule, par exemple, si elle devait le baisser 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, à un moment donné, si on est tout seul à baisser, le dollar canadien va suivre à la baisse. Si on devait l'amener sous les 70 sous, à ce moment-là, probablement qu'on se créerait un nouveau problème d'inflation sur tout ce qu'on importe. Donc, la Banque du Canada, oui, elle a une porte pour s'ouvrir. La porte s'ouvre pour qu'elle amorce un cycle baissier en juin, une fois, deux fois, peut-être une pause à l'automne, puis on verra après ça, après l'élection de novembre prochain. Parce qu'on risque de voir aux États-Unis les premières baisses de taux. Si elles ne se font pas bientôt, ça va probablement attendre. Puis il n'y a aucune marge de manœuvre dans les données économiques pour justifier que la Fed puisse baisser son taux directeur aujourd'hui. Puis, petite anecdote, aujourd'hui, la rencontre de la Fed s'amorce, le résultat est demain. Et en novembre, on l'a décalé de quelques jours. T'sais. Généralement, la rencontre de la Fed, c'est toujours mardi, mercredi. Toujours. En novembre, c'est mercredi, jeudi. Donc, on a décalé la rencontre après l'élection. Je pense que la porte est en train de s'ouvrir, que s'il y a une baisse de taux à avoir aux États-Unis, à moins qu'on ait des données qui sortent loufoques au niveau de la croissance, loufoques au niveau de l'inflation d'un bord ou de l'autre, si la tendance se maintient, probablement que la première baisse de taux aux États-Unis devra attendre novembre, puis on va être rendu là.
Bien, donc, tu rouvres un peu la porte à la prochaine question. On parle des élections aux États-Unis. En novembre, les électeurs vont se prononcer entre probablement Biden et Trump. On a déjà eu un préambule à qu'est-ce qui peut arriver avec une présidence de Trump. On avait tous extrêmement peur que Trump gagne les élections en 2016. Il les a gagnées. Finalement, le résultat n'a pas été si pire.
Pour la bourse.
Pour la bourse, là, ouais. Du moins. Là, pour l'humanité, on en reparlera. Tu sais, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi l'impact, par exemple, si Trump devait gagner les élections? Puis au niveau des décisions des banques centrales, est-ce que ça vient un peu limiter ce que Powell peut faire?
Primo, les politiciens sont super bons pour nous expliquer que la prochaine élection est l'élection la plus importante depuis des générations et qu'évidemment, eux seuls ont toutes les solutions à tous nos problèmes. Bon, ça, c'est une citation de Warren Buffett, OK? Mais à posteriori, on se rend compte que finalement, plus ça change, plus c'est pareil, puis on verra, on passera. Est-ce que cette fois-ci, ça pourrait être différent? Peut-être, mais on verra. Moi, c'est clair qu'on va avoir un show de boucan, là, une grande émission populaire, populiste. Parfait. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre une pause puis regarder bien plus les politiques et non la politique?
Ouais.
La nuance est super importante parce que la politique en continu, il y a des échanges, on veut la clip, on veut voler le show puis on veut beaucoup d'attention. Puis pourtant, les politiques, elles, sont nettement plus stables. Si on avait peur en 2016 de l'élection de Trump, moi, on m'avait demandé la question dans une conférence à Québec le jour même de l'élection, ce que je pensais qu'il arriverait s'il était élu. J'ai dit, écoutez, nous, là, on est des gens de marché. On est spécialisés dans l'évaluation des actifs. Puis on modélise la valeur d'un actif en appliquant un multiple sur des bénéfices. Puis si, comme Trump avait l'intention à l'époque de baisser le taux d'imposition, t'sais, si je laisse plus de bénéfices, c'est sûr qu'à un ratio cours-bénéfice constant, la bourse allait valoir plus cher. Ceci dit, est-ce qu'il aurait la même marge de manœuvre en novembre, en 2025, alors que les taux d'imposition ont déjà été baissés, alors que le déficit est déjà anormalement élevé? Liz Truss, en Angleterre, l'a appris très vite. Là, quand on veut annoncer des baisses d'impôts à des gens qui n'en ont pas besoin puis que ça challenge la viabilité fiscale d'un pays, elle est restée moins longtemps à la tête de l'Angleterre que Kim Campbell au Canada il y a 20-30 ans ou 40 ans peut-être pour les plus vieux qui s'en souviendront. Fait que, est-ce que les États-Unis pourraient vivre leur Liz Truss moment? On verra, je pense pas. Je pense qu'il y a une certaine dualité. Ouais. Puis d'être élu président, c'est une chose. Après ça, il faut voir la Chambre des représentants puis le Sénat, comment le contrôle va se diviser. Mais malgré tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on dira, j'ai quand même confiance dans la force des institutions américaines, dans le check and balance qui s'opère de ce côté-là. Puis on peut s'attendre à ce que le 6 janvier soit un peu mieux, que le Capitole soit un peu mieux protégé que la dernière
fois. D'après moi, il va y avoir plus de casquettes bleues autour du Capitole le 6 janvier 2025.
Ouais. Ben, merci beaucoup, JR. C'est bien apprécié. Nos clients s'inquiètent de l'inflation et s'inquiètent des élections américaines. Fait que je pense que tu nous as donné une bonne perspective là-dessus. Merci beaucoup, Martin. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, communiquez avec nous. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Merci beaucoup pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.